on continue sur l'emploi et les compétences au niveau des formes de mutualisation, on a quelque chose qui se fait assez fréquemment, c'est l'assemblage de temps partiel. Donc, on parle de plusieurs organisations qui se regroupent pour mettre des formes de mise à disposition, que ce soit de l'assemblage de temps partiel, du groupement d'employeurs. Ça concerne plus couramment les fonctions support sur l'entretien, la comptabilité, l'administration, la gestion de site internet. Et ça se prête moins facilement aux fonctions proches de l'artistique pour des raisons telles que la saisonnalité ou la protection de la création de son réseau de commercial. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'utilisation du salarié sur de la production avec Bobine et Éponyme, parce qu'il y a peu ou pas de concurrence dans le secteur. Quand j'avais fait l'étude préalable pour Métier Culture en posant des questions de mutualisation, clairement on m'avait dit l'administration, la comptabilité, pourquoi pas, la diffusion, en gros le nerf de la guerre, jamais. Au niveau des différentes structures culturelles, ce qui peut s'entendre. Après, c'est pas forcément c'est plus la compétition que la coopération. La mise à disposition, c'est une forme, c'est un outil en fait, qui permet de mettre une personne salariée à disposition d'une autre structure par le biais d'une convention dite de mise à disposition. Alors, sur le site d'Opal, il y a un formulaire de mise à disposition qui est téléchargeable. Je le mettrai de toute façon. J'ai oublié de vous le dire, mais sur le site de Métier Culture, on a fait un document sur la page d'accueil qui s'appelle Les ressources pour la journée d'info du 26, dans lequel il y a toutes les ressources qui ont été utilisées, les contacts ou les structures des personnes qui sont intervenues avec nous aujourd'hui. Et on vous remercie encore d'avoir fait toute cette route. Et donc, ces informations sont disponibles sur le site de Opal par rapport à la mise à disposition. Donc, dans la mise à disposition, notamment, la mise à disposition, elle est ponctuelle. Ça ne peut concerner que des besoins structurels, qui ne sont pas forcément récurrents dans le temps. Et la refacturation doit s'effectuer à l'euro l'euro. Donc c'est le coût du salaire et des charges sociales sans frais de structure. Si la structure bénéficiaire se désengage, la structure employeuse n'a pas d'obligation légale de trouver un remplaçant pour garantir un poste à temps plein. Donc ça c'est sur le site d'Opal, je remettrai en évidence l'article par rapport à la mise à disposition. Il y a aussi un outil qui n'est pas forcément une forme de mutualisation, mais en tant que tel, mais que j'ai rajouté, c'est le mécénat de compétences. C'est-à-dire que c'est une entreprise extérieure qui va mettre à disposition un salarié pour une durée dédiée pour justement faire ce mécénat de compétences dans le cadre d'une structure. Donc soit l'entreprise exécute un contrat de prestation au titre du mécénat qui sera légal dès lors qu'il ne consiste pas en une fourniture de main-d'œuvre à but lucratif. Soit l'entreprise mécène met par convention entre la structure et les salariés, les salariés à disposition. C'est un avenant au contrat de travail du salarié concerné. Et ce prêt revêt un caractère non lucratif. C'est les seuls, d'ailleurs, il faut le savoir, les opérations de mise à disposition de personnel à but lucratif, ça ne concerne que les entreprises d'intérêt. La structure bénéficiaire est quant à elle responsable des conditions d'exécution de travail. Dans le cas du mécénat avec prestation de service, la base de calcul du montant du don est indiquée par l'entreprise, c'est son coût de revient. Et en cas de personnel mis à disposition, c'est le coût du temps passé par le salarié, plus les charges. Donc, vous retrouverez ces informations sur le site, parce que c'est assez rare. Je me tourne maintenant vers Caroline, puisque Caroline a de multiples casquettes, outre le fait d'être directrice de la CRES, et elle a monté un groupement d'employeurs et de moyens dans l'économie sociale et solidaire. Et du coup, je me tourne vers Caroline pour évoquer avec elle les groupements d'employeurs, qui sont une forme bien particulière, puisque les adhérents d'un groupement d'employeurs partagent la responsabilité d'employeur. Et donc, Caroline, qu'est-ce qu'un GIE ?
Bonne question. Donc, avant tout, voilà, moi, je suis salariée de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. J'occupe le poste de direction et c'est en tant que salarié de la CRES que j'ai la responsabilité cette année du groupement d'employeurs et de moyens de l'économie sociale. Donc la gouvernance et les décisions reviennent bien aux administrateurs, au conseil d'administration. Le groupement d'employeurs, en fait, la définition classique, puisque nous on l'a peut-être un peu tordu ou en tout cas adapté à nos besoins, c'est de pouvoir additionner des temps partiels pour proposer des postes, si possible, à temps complet, en tout cas des postes plus conséquents que des petits bouts de 0,1, 0,2 ETP par-ci, par-là. On a vu beaucoup de groupements d'employeurs dans le secteur sportif, par exemple, On voit bien sur les éducateurs sportifs, on additionne les interventions dans les clubs pour avoir des contrats les moins précaires possibles, et puis avoir un seul employeur et donc une seule fiche de paye, et ne pas additionner les employeurs et les contraintes, parce qu'il y a quand même des contraintes à avoir des employeurs, ne pas les additionner. Nous, pour notre histoire, on est deux associations, donc la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale, et puis le mouvement associatif, qui se sont créés il y a une quinzaine, vingtaine d'années ensemble. C'est-à-dire que je caricature, mais à peine, le même jour, il y a eu un rassemblement d'élus, d'administrateurs, et ils ont décidé de créer la CRES et puis le mouvement associatif. Pas mettre les mêmes œufs dans le même panier pour développer et structurer l'économie sociale en région centre. Et en fait, on retrouve toute cette histoire maintenant dans notre quotidien, puisqu'il y a toujours eu une volonté politique souder, de faire en sorte que nos deux structures ne puissent pas s'éloigner et soient, si j'ose dire, contraintes à travailler ensemble. Ouais. Contraintes positives, mais bon, voilà, pour la forme. Donc, petit à petit, si vous voulez, ça a démarré par les mêmes locaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a bien un groupement d'employeurs et de moyens. Et la partie moyen est peut-être même aujourd'hui presque plus développée que la partie employeur. On a loué ensemble une première maison rue Bagnier avec donc on est dans la métropole d'Orléans à Fleury-les-Aubrais. Et puis a été mis à disposition un premier salarié. Donc il y avait une seule structure qui était porteuse du bail et qui était porteuse des contrats de travail. Qui ensuite mettait à disposition aussi bien les locaux que les personnels. Et puis un jour, il y a une troisième structure qui était maintenant France Active, avant Centre Actif, qui nous a rejoints. Et donc grossissant, la mise à disposition commençait à être assez contraignante et puis donner aussi un peu une relation particulière avec la structure porteuse qui n'était pas forcément positive ou celle voulue dans la gouvernance et dans les relations les uns entre les autres. Donc le jour où on a déménagé, puisqu'on commençait à être 6-7 salariés dans ces mêmes locaux et donc à l'étroit, les administrateurs ont décidé de passer le cap et de créer un groupement d'employeurs et de moyens. Le groupement de moyens est devenu indispensable parce qu'on a loué des locaux, je ne sais plus, à l'époque, il devait y avoir 200-300 mètres carrés. Aujourd'hui, on est entre 600 et 700 mètres carrés. On ne pouvait pas, bêtement pour des questions de trésorerie, faire assumer la location de ce loyer par, en l'occurrence, le mouvement associatif. Donc il était indispensable de travailler à la mutualisation, et donc d'avoir une structure qui pouvait porter cette location et tous les frais afférents, tous les contrats de prestataires informatiques, ménages et autres. Donc on a créé ce fameux groupement d'employeurs et de moyens de l'économie sociale, dit le GEMES pour les intimes, qui était vraiment notre propre outil aux habitants de cet endroit, notre outil de mutualisation. Pour afficher cette volonté politique partagée que les structures représentatives au niveau régional de l'économie sociale et solidaire travaillent ensemble sous une même coupe, ça a été l'occasion de dénommer ce lieu et de l'appeler la Maison régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc avec des intramuros, ceux qui sont bien habitants de la maison et donc forcément adhérents au groupement d'employeurs et de moyens. Et puis les extramuros, c'est pas tous ceux qui composent l'ESS, mais bon, on n'a pas de la place pour tout le monde, donc il y a les intras et les extras, mais tout le monde est bienvenu dans cette maison. Je réponds pas, si.
Sur l'historique de la création du GMS.
Voilà, le pourquoi du comment.
Ouais, et groupement d'employeurs en tant que tel. Dans la loi de 85 qui a créé le GE, on parle d'outils permettant à des structures, que ce soit des associations, des entreprises, des collectivités territoriales, de se regrouper pour employer en commun du personnel qui est mis à disposition des membres selon leurs besoins respectifs. Dans le cadre du GMS, vous mettez à disposition des salariés et des moyens, et comment, en fonction des besoins respectifs, comment ça se contractualise, comment ça se positionne, et comment vous décidez en disant « moi j'ai besoin de ton salarié, ou du salarié, ou de la salariée, X heures par mois, etc. »
Alors c'est là où peut-être qu'on a une forme particulière, en tout cas une forme différente des groupements d'employeurs que je citais par exemple comme des groupements d'emploi sportifs dont Alicia pourra vous parler cet après-midi. Nous, aujourd'hui, le GEMES, il y a 6 adhérents. Les 6 adhérents ne sont pas forcément bénéficiaires de mise à disposition de personnes. Donc, on n'est que 2, la CRES et le mouvement associatif, à avoir des personnes mises à disposition dans nos propres équipes et dans nos effectifs. Et on est sur des emplois à durée indéterminée. Donc, en fait, c'est des postes qu'on a montés ensemble parce que soit on n'avait pas le budget pour embaucher des temps pleins, clairement, soit on avait des besoins qui ne représentaient pas des temps pleins. Donc, on a monté ensemble avec le mouvement, le CRES et le mouvement associatif, la définition du poste, le recrutement, etc. On a essayé, et c'est là où je pense, je ne vois pas Sébastien, mais j'espère que tu es d'accord avec moi, qu'on a une marche à passer pour pouvoir justement répondre à des besoins ponctuels. On a essayé de le faire à un moment, mais tel qu'on est configuré, alors est-ce que c'est une question de taille ou de souplesse de fonctionnement? Répondre si il y a un collègue, une structure adhérente qui a besoin d'un remplacement parce que je sais pas, il y a un arrêt maladie, un congé maternité ou il y a juste un besoin ponctuel sur une mission donnée. On se donne des coups de main, mais ça j'allais dire propre à chacun d'avoir la philosophie du coup de main. Mais de là à être en capacité de nous faire des mises à disposition sur un temps donné, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on a une taille sûrement trop réduite sur la partie emploi.
Donc tu veux dire que si jamais il y avait plus d'adhérents dans le...
C'est une des hypothèses.
Ça serait nécessaire.
Ouais. Parce que là, aujourd'hui, clairement, au GEMES, on a 5 chargés de mission. Donc, il se trouve qu'on a un effectif 100% féminin. Sur les 5 chargés de mission, sur les 5 salariés, pardon, il y en a 4 qui sont remis à disposition. Il y en a une qui est permanente au GEMES parce qu'il faut quand même faire tourner la machine, et surtout sur la partie moyen. Et sur les 4, on a par exemple une chargée de com, une assistante de direction, une secrétaire, j'ai perdu la 4e, mais elle ne m'en voudra pas. Et elles sont à chaque fois à mi-temps sur 2 structures. Donc on est quand même à flux tendu et on n'a pas... La possibilité dans le montage de notre structure ou dans notre financement de pouvoir dégager du temps disponible au-delà du coup de main. Okay. Mais c'est un besoin par contre des acteurs qui, et c'est en étude, hein, on a une réunion ensemble la semaine prochaine pour voir, parce que quand on additionne, notamment parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes au sein de la maison régionale de l'ESS, tous les congés mat sur l'année, ça pourrait être intéressant de réfléchir voilà, à voir quelqu'un au sein du GEMES qui soit dédié à des remplacements. Après, se pose la question des compétences.
D'accord. Et juste pour que je comprenne bien, il y a, dans le groupement d'employeurs, il y a 2 salariés dédiés qui correspondent
à
une seule. Ouais. Et après, tu parlais de 3 ou 4 mises à disposition qui viennent en fait des autres structures qui sont mises à disposition.
Non, le GEMES emploie 4 personnes.
D'accord.
Sur ces 4 personnes, il y a 3 équivalents temps plein qui sont mis à disposition des adhérents.
D'accord.
Et il y a un ETP qui reste au sein du GEMES, mais par contre qui est assumé financièrement pour la coordination, mais qui est assumé financièrement par l'ensemble des adhérents. Donc grosso modo, on en paye chacun 0,1, 0,2, 0,2 ETP. Et le GEMES, la personne qui est en l'occurrence Sylvie Leblanc, ça ira plus vite. Donc Sylvie, elle, après, son boulot au quotidien, c'est la partie moyen, qui est quand même conséquente parce qu'il faut gérer tout ce qu'on ne voit pas, mais quand ça ne marche pas, ça pose problème. Tous les prestataires, tous les contrats, ça va du contrat de ménage en passant par le contrat informatique, la gestion du serveur, d'internet, le téléphone, la mutualisation des achats, parce qu'autant que possible, on n'a pas basculé vers un groupement d'achat, mais on est adhérent à un groupement d'achat, ce qui nous permet d'acheter tous ensemble via un groupement d'achat.
D'accord.
Et bon, alors des fois c'est intéressant, des fois ça l'est pas. Mais quand ça l'est, d'acheter ensemble, notamment le renouvellement du parc informatique, etc. Et après, le reste, bon, il y a la vie statutaire, qui n'est pas hyper conséquente, mais il y a quand même une vie statutaire. Et puis, il y a tout le travail autour des emplois, même si ça n'est pas que... Il y a les mises à disposition, mais pas que... Il y a un effet indirect du GEMES qui est l'harmonisation des pratiques. Et donc même si on n'est que 2 des 6 à bénéficier de mise à disposition tous les 6, et donc en l'occurrence les postes de direction. On se réunit quasiment tous les mois pour partager nos pratiques, nos questionnements, plus particulièrement sur la fonction RH, et d'aller vers une harmonisation des pratiques. Parce que quand vous arrivez à la MRES, les bureaux ils sont mélangés, il n'y a pas tel endroit, telle ou telle structure, enfin moi un petit peu avec les étages, mais en tout cas dans l'idée, dans un bureau, il peut y avoir 2 personnes d'une structure différente. Donc ça nous oblige, nous employeurs, à harmoniser nos pratiques. Donc ça c'est assez intéressant aussi, tous les effets induits, en fait, indirects de cette mutualisation.
Donc là, ça tire vers le haut l'ensemble des employeurs sur la, en termes de ressources, en termes de, exactement. Oui. Et concrètement, vous voulez rajouter quelque chose ?
Mais après.
Ah, d'accord.
Juste en témoignage.
La question que je me pose, moi, c'est quel groupement d'employeurs ? Donc, ça représente une structure juridique sous quelle forme ?
Alors, c'est une association.
C'est une association. Ça peut avoir d'autres formes ?
Par ma connaissance, c'est forcément une association. Après, il y a une. On doit déposer à la préfecture, on doit avoir un agrément, une reconnaissance par la préfecture de pouvoir mener cette activité particulière de mise à disposition de personnel.
Et ça se passe comment ? Donc il y a un contrat qui est fait entre...
Je l'avais oublié, celle-là. Question. C'est une convention...
Personne ne s'en était aperçu.
Oui, c'est ça, que toi. C'est une convention de mise à disposition, en fait, okay, entre l'employeur, enfin la structure employeuse, le GMS, et la structure bénéficiaire adhérente.
Et dans cette convention, qu'est-ce qu'on retrouve comme clause ?
Alors, on va retrouver l'équivalent d'un contrat de travail, sauf que le salarié n'est pas signataire de cette convention de mise à disposition. On va retrouver le pourquoi la personne est mise à dispo, quel va être son travail, mais sans rentrer dans un détail fin. Le temps donné, le nombre de TP... Qui est mis à disposition. S'il y a la répartition du temps de travail, ce n'est pas toujours le cas, en fonction de l'organisation entre les structures, on précise, ben, c'est tous les matins, c'est tous les après-midi, ou c'est un volume horaire à la semaine ou mensuellement, ça peut être variable. Et puis les conditions de suivi de la personne. Donc, généralement, dans nos conventions, on s'engage à un relevé mensuel des heures effectuées par la personne, ce qui permet notamment de réajuster si besoin la facture à la fin de l'année, quand on va facturer le temps passé dans la structure. Et puis les clauses de suivi vraiment là du poste, comment vont être organisées, l'entretien annuel, l'entretien professionnel. En fonction, alors aujourd'hui on n'est plus que sur des mi-temps. Quand on était sur des postes, on a eu un moment où on avait une comptable qui pouvait être sur 3-4 structures, donc qui était entre 0,1 et 0,2 ETP par structure. On avait organisé pour qu'elle n'ait pas 4 entretiens annuels, mais l'entretien se faisait avec le GMS après consultation par exemple des employeurs.
Ouais, parce que sinon ça voudrait dire que chaque employeur a l'obligation.
Ensuite, sur nos conventions mises à disposition, en tout cas on est sur des engagements limités. Et avec un temps de rétractation, un délai qui est de 2 mois.
D'accord.
Comme un contrat de travail.
J'avais une question.
D'abord Sébastien.
Non, moi c'était plus sur réagir sur le fonctionnement. En effet, sur l'histoire, c'est vrai que c'était d'abord mutualisation des moyens. Et en fait, ça nous a appris aussi à travailler ensemble, en fait, plus nos structures qui sont sur des choses différentes. Et bien, comme on partageait une maison commune, c'est vrai qu'au début on était 5 ou 6 salariés, aujourd'hui on est 35 salariés sur ces 5 assos, donc c'est des assos qui, enfin, à ampleur régionale, donc qui sont quand même bien développés sur ces dernières années. Mais ça nous force aussi, parce qu'on est dans les mêmes moyens, à continuer à savoir ce qui se passe dans nos structures, les aspects stratégiques de chaque structure. Et nos salariés aussi sont un peu poussés, parce qu'on est dans la même maison, qu'on se présente maison régionale de l'ESS, de savoir un peu et de ne pas dire non, moi je ne sais pas ce que fait la CRES ou le mouvement associatif, ça ne m'intéresse pas. Si tu es à sens actif, tu dois t'intéresser à ça, de toute façon c'est ton environnement de travail. Donc parce qu'on a mutualisé des ordinateurs et un serveur commun, et finalement on a aussi, enfin nous c'est arrivé comme ça en fait, de mutualiser. Alors nos projets c'est peut-être Messi quand même, et vis-à-vis de nos financeurs aussi, de montrer sur quoi on était, où il y a des ponts et où il y a des passerelles et où il n'y en a pas, etc. Et puis sur le concret du pratico-pratique de la mutualisation, On s'est aussi aperçu, mais en termes de chargé de mission, moi, là c'est juste un retour, qu'au-delà de deux structures, on disait, enfin, un salarié qui est partagé sur trois structures, quand il est chargé de mission, ça commence à être un peu complexe dans sa tête, quoi. Hein. Enfin, même si sur des postes plus. Parce qu'il y a des choses obligatoires dans une structure, même si vous êtes qu'à 0,20, si vous voulez participer aux réunions d'équipe, à la réunion hebdomadaire, à la réunion, bah, si vous venez qu'un jour par semaine, mais bon, ça vous l'avez bien aussi dans vos structures, à un moment, il y a des temps incompressibles qu'il faut que bah, ça réduise quand même sur le temps de travail. Enfin, sur le temps productif, entre guillemets, enfin, c'est pas comme ça, mais il y a des participations. Donc, on l'a vu aussi, à la limite, on voudrait bien tout partager avec des gens qui font que des demi-journées à peu près, mais au final, c'est pas si simple sur cette partie. Et un autre point, c'est que ça nous coûte pas moins cher, quoi. Mais ça, c'était un peu l'idée de la mutualisation. C'est-à-dire que mutualiser, ça nous coûte pas moins cher que si on s'en occupait chacun. Sauf que ça permet de réfléchir en commun sur des serveurs, sur tout ça, d'avoir des choses, est-ce qu'on se met dans le cloud, pas dans le cloud, enfin des petits trucs, hein, mais si la maison brûle, où sont nos données, où sont tout ça, où chaque petite association quand même, les 4, 5 salariés, 10 salariés, n'a pas toujours le temps de se poser toutes les questions nécessaires, les RGPD, le machin, là on mutualise quand même des choses, alors pas sur ça, mais notamment sur le serveur, si ça brûle, les assurances, les machins, là on mutualise des compétences aussi sur ça.
Donc c'est, en fait c'est un moyen volontaire de se contraindre à travailler ensemble.
Aussi, ouais, non, mais aussi, clairement, clairement. Et puis l'harmonisation des pratiques, c'est ce qui est venu. Alors là, ça vient un peu plus, mais effectivement, les salariés, ils ont qu'une seule cantine. Ils sont 35 structures, 35 salariés ont une cantine de 5 associations. Donc ils parlent entre eux. Et donc ils parlent entre eux des salaires, des vacances, des congés. Tiens, moi, quand je pars à 5h05, bah, c'est noté. Moi, quand je pars à 6h, bah, c'est pas noté chez moi. Et donc, vous avez des pratiques managériales à harmoniser aussi.
On a des candidatures spontanées.
De force, des candidatures spontanées des uns des autres, ça, évidemment.
Les tickets restaurants sont plus importants dans votre structure.
Ben non, mais forcément, ils regardent ça aussi, ce qui est un peu.
Les avantages, mais voilà. Emmanuel, une question ?
Oui. C'était juste une question très technique. À un moment, tu as évoqué le de facturation. Du coup, je voulais savoir si le groupement d'employeurs. Quand il facturait aux assos, du coup, il était assujetti à TVA. D'accord. Parce que du coup, ça. Voilà.
Pour le moment, non. À chaque législation, on frémit toujours. Ouais. Mais un groupement d'employeurs qui n'est composé que d'associations n'est pas assujetti à la TVA. Okay. Par contre, il faut être hyper vigilant à ne jamais faire de marge dans nos facturations. On n'a pas le droit.
D'accord. On n'a pas le droit de faire une marge sur la mise à disposition, etc. D'accord. Qui est logique, sinon tu fais du profit au détriment des autres sur un projet commun.
Et même si les assos sont fiscalisées elles-mêmes, si les assos sont soumis à la TVA, sont assujettis.
Comme nous on ne l'est pas, pour le moment on ne se pose que les questions.
des questions qu'on n'a pas, mais quand on.
Voilà.
Je pense que ça peut marcher parce qu'il y a au niveau des structures, même tu peux être fiscalisé priori, sur une partie seulement de tes activités.
Pardon. Ouais. A priori, non, puisque ça a été réaffirmé que, alors, je vérifierai, mais qu'un groupement d'employeurs, sans aller plus loin dans la définition, mais qu'un groupement d'employeurs constitué uniquement d'associations n'était pas assujetti à la TVA.
Même si les assos sont elles assujetties.
A priori, non.
Je pense que par rapport à ta structure, tu peux très bien être fiscalisé sur une partie seulement de tes activités. Et si la mise à disposition du salarié, ça fait partie d'une partie de tes activités, tu peux probablement pas être fiscalisé sur ça. C'est une bonne question à poser de toute manière.
Alicia, ça aura y réponse cet après-midi.
Alicia, cet après-midi, elle sera nouvelle. Bon, il faudrait écouter le podcast.
Un mail et puis on répondra.
J'écouterai la
Sur j'avais d'autres questions sur les.
Moi, je voulais juste rajouter du coup sur les fonctions du GMS parce que c'était pas inscrit au début, mais c'est de faire vivre. C'est pour rebondir sur ce que tu disais, Sébastien. C'est faire vivre cette maison régionale. Donc le collectif, finalement, on est aussi une forme de collectif. Et ça, aujourd'hui, ça nous. C'est un sujet qui nous préoccupe en fait au quotidien parce qu'on se rend compte, on a des défis à relever pour que la maison régionale et ce projet d'être contraint volontairement à travailler ensemble fonctionne bien puis que ça ressemble à quelque chose et qu'on aille au-delà de l'outil. C'est un vrai défi. De choses, on a plusieurs fois parlé comment est-ce qu'on accueillait des nouveaux coopérateurs, par exemple chez vous. Nous, c'est comment on accueille des nouveaux adhérents au GMS. Donc là, aujourd'hui, c'est facile, on n'en accueille pas parce qu'il n'y a plus de place. Néanmoins, on en a accueilli et j'espère qu'on sera un jour en situation de pouvoir en accueillir de nouveau. On n'a pas toujours, enfin maintenant avec le recul, on se rend compte que on n'a peut-être pas assez fait le travail d'accueil, d'explication et de prendre le temps, voilà, de transmettre ce projet qui n'est pas complètement écrit, qui n'est pas complètement figé, mais ce projet, pourquoi cette maison régionale, pourquoi travailler ensemble. Et du coup, on a... alors, c'est pas facile, parce qu'on est ici, donc du coup, forcément, je vais balancer un peu, mais on a des adhérents qui peuvent de temps en temps venir chercher aussi un service. Et au début, c'est pas simple de faire comprendre que, ben, sur certaines lignes, parce qu'il y a quand même cette partie moyen qui est importante, donc du coup... Des financements, enfin des budgets, etc. Il y a peut-être certaines lignes où, comme ça, a priori, ça peut paraître coûter cher, la photocopieuse ou le raccordement à Internet, au serveur, etc. Mais il y a d'autres lignes où il y a des vraies économies qui sont faites et qui ne sont pas toujours quantifiables. Par exemple, si on était tout seul, donc là, c'est un tac tout de suite à mon voisin de gauche, mais on s'entend bien, donc je peux, on n'aurait pas accès à une salle de réunion de 40 places quand on veut, n'importe quand. Donc il y a des choses comme ça qu'on maîtrise pas forcément. Et puis forcément, ce qu'on a déjà dit, au-delà, il y a toute cette partie... Pardon ?
Pas moi, mais au-dessus de moi. Tu
vois. Ouais. Mais tu feras remonter le message. Enfin bref, il y a tout ce que... Voilà, il y a des lignes où on est perdant, il y a d'autres où on est gagnant. Et souvent, c'est souvent quelque chose du quotidien parce qu'on a énormément... On a passé énormément de temps à travailler sur les clés de répartition. Comment on refacture les mètres carrés, les interventions des uns et des autres. Et il y a un moment où, en fait, il faut adhérer au projet, parce que si on passe son temps à retravailler les clés de répartition, c'est ça qui coûte une fortune. Et on a été tenté de se dire, on passe à un mode de prestation de service. Et il y a un forfait pour rentrer au groupement d'employeurs, et moyens, et puis habiter dans cette maison régionale. Mais et si on faisait un forfait, si on était en presta, du coup on casse le projet de mutualisation. Mm-hmm. Et juste pour finir, je pense que là, ce qu'on a relevé aujourd'hui, c'est de passer de la mutualisation, enfin, c'est pas pour la formule, mais c'est quand même vraiment vrai, de la mutualisation à la coopération. Mais aujourd'hui on mutualise, et comment est-ce qu'on a réellement au-delà du fait que les statuts de nos structures fonctionnent ensemble parce qu'on est tous adhérents les uns les autres, etc. Mais comment est-ce qu'on coopère et qu'on a vraiment des projets communs au sein de cette maison et avec nos équipes salariées.
Bah, du coup, il y a deux choses que tu viens de dire sur lesquelles moi j'avais noté. Comment ça fonctionne, les modifications statutaires pour les adhérents du GE? Parce que j'imagine que forcément, il va y avoir des modifications. Comment tu fais pour sensibiliser à cette logique-là l'ensemble des autres structures?
Un adhérent, enfin non, quand on adhère au groupement d'employeurs, ça change...
Ça ne change rien, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de décision en CA pour une asso ou une structure quelconque qui veut adhérer. Hein. Okay.
Après, il y aura un enjeu particulier aussi que là, les 5 fondateurs, enfin les 5 directeurs des structures qui sont actuellement dans le groupement, sont celles qui sont à l'origine du groupement, ou une qui nous a rejoint mais qui était salariée d'une autre structure et qui est ensuite montée à directrice d'une des structures. Donc on a toujours les mêmes, et ça c'est quand même aussi important dans la mutualisation, c'est qu'on est les 5 mêmes responsables sur ces structures-là. Il y aura aussi l'enjeu de passer la main un jour pour adhérer à ce projet, parce qu'ils sont portés par les élus, mais ils sont aussi quand même portés par les directeurs de structure. Et on a le problème, tu le dis, dans le fait d'être passé de 5 salariés ou 6 à 35, et ben, y a des salariés ou le groupement, c'est juste voilà, une photocopieuse en commun et c'est tout, alors que c'est un projet commun. Et ça, on n'a pas réussi à les emmener aussi avec nous, parce que même dans les lieux physiques, et ben, est-ce qu'il y a un lieu spécifique, notre cuisine devient toute petite, enfin, c'est des choses bêtes, mais on voit l'importance dans ces lieux totems, en tout cas mis comme tels, d'endroits un peu collectifs, où on fait vivre le collectif aussi, ben, on est lié aussi à ces défis-là. Dans notre maison, d'avoir un lieu un peu informel. Donc là, on réfléchit sur comment emmener tous les salariés avec nous. Là, il y a les 5 responsables, les 6 responsables de structure. Mais aujourd'hui, il faut emmener aussi l'ensemble du collectif salarié vers cette mutualisation commune. Et là, c'est encore un défi fort.
Et du coup, est-ce qu'il y a une notion de taille critique par rapport à chacun des structures qui fait partie pour que ce soit cohérent? Parce que j'imagine que le fait de vous connaître, c'est génial, parce qu'il y a eu toute une antériorité qui fait que le décider volontairement de... Mais est-ce qu'il y a une taille critique? Est-ce qu'il y a un volume pour que ce soit pertinent pour l'ensemble des personnes qui... Enfin, des structures
UGE? Sur la partie emploi, je pense pas. Ça va être plus la nature de l'activité et des compétences qui seront cherchées via le GMS. Sur la partie moyen, sûrement un peu, parce que... entre une structure où il y a 10 salariés et une structure où il y a 2 salariés, bah, ce n'est pas la même occupation de l'espace, à moins qu'il y ait une vie des bénévoles tout à fait différente d'une structure à l'autre. Mais en pratique, chez nous, en tout cas, c'est quand même les salariés qui sont là au quotidien, même s'ils viennent me dire bonjour. Hein. Mais le quotidien, il est avec les équipes salariées. Ça peut être plus délicat, voilà, pour une structure... Une plus petite structure employeuse.
D'accord.
Après, c'est une question d'appropriation hein, du projet et de mobilisation dans cet espace-là.
D'accord.
Parce qu'après, il y a tout l'informel qui n'est pas.
Vous avez un bout de GE.
Pour les structures plus petites, on pourrait se dire, moi j'étais sur l'URSCOP, j'étais le seul salarié pendant longtemps, et je suis une antenne de l'Île-de-France, donc l'Île-de-France dit, oh là là, mais si on était tout seul, en face de la gare, ça nous coûterait moins cher que ça, et puis voilà.
Pas de salle de réunion.
Non, mais donc pas de salle de réunion, mais c'est pas ça, le truc c'est d'être ensemble, on a les mêmes financeurs, on a les mêmes, enfin c'est un projet d'être là, quoi. Donc soit on adhère à ce projet d'être là, soit on regarde que les coûts, quoi. Et si on regarde que les coûts, ben, on se dit, bah oui, effectivement... pour me gérer un seul ordinateur et puis un serveur, et finalement j'ai mon disque dur externe, ça sera bien, et encore que le jour éclate, on est bien content. Mais là on est dans de la technique pratique, quoi. Et alors soit on adhère au projet, et je pense qu'il n'y avait plus effectivement la taille critique, elle est de quelques salariés pour ensuite. Donc là on est deux puis trois, donc on est trois, du coup on a atteint la taille, j'espère. Mais du coup, il y a effectivement, pour mutualiser, il faut avoir quelque chose à mutualiser. Donc en effet, plus on est un peu gros, plus ça. Et nos structures sont à peu près de taille équivalente quand même maintenant, enfin taille équivalente. Il y aurait le même problème s'il y avait, je pense, une structure de 30 salariés et une autre de, on est quand même entre 5 et enfin entre 3 et 10, 12 salariés, donc c'est à peu près.
J'ai lu que la durée de vie des GE c'est entre 3 et 5 ans parce qu'on arrive à un moment donné, les structures arrivent à un niveau d'emploi qui fait qu'il y a trop de. Enfin, le GE explose en fait par rapport aux sollicitations, etc. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que c'est un...
C'est une exception qui confirme la règle, alors on a 10 ans. Non, je ne savais pas.
Je ne changeais rien. J'avais lu ça, parce que c'est entre 3 et 5 ans, parce qu'après, en termes de... Enfin, c'est le volume d'activité qui fait que, tôt ou tard, chacun des employeurs ne se retrouve pas son compte par rapport à ça. Mais ce qui est louable dans la démarche, c'est qu'il y a toute une... qui est bien par rapport à ce qu'on pointe sur la mutualisation et la coopération, c'est la nécessité de se connaître préalablement et de manière à pouvoir avancer.
Et j'allais dire, moi, à l'inverse, la question qui se pose aujourd'hui, alors qu'on ne pose pas ouvertement dans toutes les équipes parce que ça peut être déstabilisant, mais en tout cas avec les conseils d'administration, c'est est-ce que pour continuer, pour relever les défis qu'on mentionnait, il ne faudrait pas que l'ensemble des salariés, même ceux qui ne sont pas mis à disposition, basculent au groupement d'employeurs et de moyens. Donc, on est plutôt dans cette réflexion-là.
D'accord. Ok. Il y a d'autres formes de GE, notamment, merci Caroline. Il y a les GEIQ qui sont des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Ce sont des structures qui parient sur le potentiel des personnes en difficulté d'accès à l'emploi, donc c'est de la formation en alternance ou de la réinsertion. Donc les structures, les GEIQ sont des entreprises qui embauchent directement les personnes, puis les mettent à disposition des entreprises adhérentes en organisant une alternance entre des périodes d'apprentissage théorique et des mises en situation de travail concrètes. Ça vous dit quelque chose, Caroline, Sébastien, les jeux véhicules
Nous, on en a financé avec France Active, ouais, de plusieurs régions qui sont... C'est un peu la même dynamique, sauf que c'est sur l'insertion.
C'est sur l'insertion.
Paris, effectivement. Alors après, on est responsable, mais... Parce que chez nous, le côté responsable des salariés, on l'organise un peu avant, quoi. T'as besoin d'un chargé de com, j'ai besoin, t'as besoin de 3 jours, j'ai 2 jours, bon, ça fait 5 jours, on va chercher nos budgets, on le passe par le groupement. Mais c'est un peu déjà Alors que le groupement, il prend la responsabilité du salarié, quoi. On l'embauche en CDI, puis après, il faut aller le placer dans les entreprises qui sont adhérentes du groupement. Et si une entreprise n'en a plus besoin, bah, il faut pouvoir la rebasculer sur un autre. Et dans ces groupements, sur l'insertion, c'est plus comme ça. Ils ont, soit ils sont spécifiques, par exemple, dans le bâtiment, il y en a
un sur le théâtre, c'est pour ça que...
Ah, voilà.
Il y en a un sur le théâtre sur Paris.
Et donc, du coup, là, ils doivent embaucher, puis après, ils ont un certain nombre de, peut-être de compagnons qui ont des besoins, et du coup, en fonction des besoins, on répond. Donc, il faut avoir une taille suffisante de groupement pour pouvoir avoir le salarié qui est assuré d'avoir, d'avoir son... Enfin, s'il est embauché à temps plein, son temps plein.
Sur les chèques, il y en a un à Orléans, dans la branche de l'aide à domicile, par exemple. Ils recrutent régulièrement des contrats de professionnalisation, parce que c'est une branche qui recrute beaucoup, qui cherche des candidats qu'elle va retrouver. Et donc, c'est une façon de mutualiser dans un premier temps ces contrats de professionnalisation, apprentissage des personnes, et à l'issue du contrat de professionnalisation, enfin, souvent, ils sont embauchés dans les structures qui sont adhérentes au GEC. Il y en a dans le Loiret qui s'étend un petit peu sur les départements, enfin le Cher. C'est une façon de mutualiser sur quelque chose de critique, quoi, un point critique de la branche.
Ouais, c'est une formation qui a accompagné le développement de ces GEC, tout à fait. Isabelle ?
Oui.
D'accord, c'est Romain qui m'en avait parlé. D'accord, ok. Merci. Tu m'avais parlé, Caroline, d'une charte par rapport au fonctionnement. Vous avez rédigé un document pour le fonctionnement.
Oui, et ben, en fait, c'est un peu suite aux expériences. Tout à l'heure, quand je disais, on n'a pas forcément à chaque fois passé le temps nécessaire à expliquer au-delà du fonctionnement, presque la philosophie un peu du GMS et de cette maison régionale, on a mis en place une charte dans laquelle est reprécisé ce que j'ai essayé de vous transmettre, le pourquoi le groupement d'employeurs, ce lien, cet outil faisant vivre cette maison régionale, qu'est-ce qu'on voulait porter comme état d'esprit dans cette maison, et puis ensuite les règles de fonctionnement, là des choses vraiment pratico-pratiques. Comment cette fameuse salle de réunion, comment elle fonctionne, et en plus maintenant il y en a deux, comment est-ce qu'elle fonctionne, toutes ces clés de répartition, comment ça marche aussi, etc. Et c'est un document qui est important parce que c'est un peu le contrat moral, quand on, au-delà des statuts, qui explicite nos règles de cohabitation, de colocation dans cette maison.
C'est un document qui est de toute façon nécessaire pour simplifier
On aurait pu opter pour un règlement intérieur. On a préféré une charte pour que le préambule du règlement intérieur prenne plus de place et qu'on puisse vraiment plus y mettre des règles de vie.
D'accord. Ok, bon, merci quand même. Les finances. Donc, c'est aussi une des possibilités de mutualisation. Y a des fonds solidaires qui peuvent se faire, il y a des garanties financières ou des fonds solidaires, donc fonds communs de trésorerie, système d'entraide financière. En Aquitaine, il y avait une recherche concernant les mutualisations possibles de sous, ils étaient arrivés rien que sur l'Aquitaine à l'époque au niveau des lieux de musique actuels, sur une somme qui correspondait à plusieurs centaines de milliers d'euros, qui était en trésorerie dormante et qui permettait en fait de pouvoir pallier à des difficultés financières pour certaines structures via des conventions type dette, documents qu'on remplit par rapport à une dette, avec un remboursement, avec un échelonnement, etc. Donc ça s'est fait de manière très informelle au sein d'un réseau, de manière à pouvoir mutualiser des sous qui sont sur des comptes et aider ces structures. Ça se fait de plus en plus, il y a une réflexion en cours actuellement sur des fonds de garantie où on peut mettre en face différents organismes qui vont pouvoir financer, au moins aider à cette mutualisation. Ce que je disais, c'est un principe de reconnaissance de dette, mais qui nécessite, pour que ça fonctionne, d'avoir une interconnaissance primordiale, savoir à qui on va prêter l'argent et d'avoir des grosses structures dans le réseau. Puisque une SMAC peut potentiellement, enfin, ici dans une SMAC, mais ça peut avoir pas mal d'argent qui peut être en dormance sur ce compte. Donc, fonds de garantie, c'est un des enjeux du contrat de filière. Emmanuel Douda parlait tout à l'heure du FRES, qui est un outil spécifique aux entrepreneurs salariés.
Ouais. Alors, la solidarité économique, enfin, elle existe quand même déjà de fait dans la coopérative, puisque contrairement aux autres entrepreneurs, à partir du moment où il y a une facturation ou même déjà un devis qui est signé, la coopérative en fait avance la trésorerie pour faire du salaire en fait aux gens qui sont dans la coopérative. Donc ça c'est déjà le premier niveau. Après effectivement le fait que les coopérateurs ne créent pas de SIRET, du coup ça les empêche d'aller sur des outils de droit commun qui existent. L'acte par exemple, des choses comme ça. Donc on a imaginé avec Odyssée qui est notre CRE sur le territoire et puis Centre Actif, le Conseil Régional et la CDC, avec les dépôts de consignation, de créer un outil qui nous soit pour le coup dédié. Donc on a mis, je crois, nous, 7 000 € sur la table, quelques milliers d'euros aussi du côté d'Odyssée Création, et la région et la CDC ont mis un peu plus de sous. Donc je crois que c'est un peu plus riche que nous. Tu mets un peu plus de sous. Et je crois qu'on doit avoir aux alentours de 65 000 €, je crois, non, c'est ça, je ne sais plus, enfin en tout. Je ne sais plus comment le fonds. Une cinquantaine de milliers d'euros. Voilà, bon, en tous les cas, on a un fonds. Et du coup, l'idée, c'est que. Alors, il sert à quoi? Il sert. C'est la trésorerie à taux zéro. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Mais qui est important dans la coopérative, parce que si jamais. Je sais pas, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut investir dans du matériel et qui n'a pas la trésorerie pour le faire. Quelqu'un qui veut. Un artisan qui veut aller sur un salon et qui a besoin d'acheter de la matière première pour produire, pour être présent sur le salon, mais il ne peut pas parce qu'il n'est pas économique qui lui permet de le faire. Du coup, c'est la possibilité d'aller chercher des sous jusqu'à. Alors, techniquement, l'histoire, c'est jusqu'à 7 000 €, la possibilité, remboursable sur 36 mois, avec un différé possible jusqu'à 6 mois. Donc, c'est super intéressant quand même pour les coopérateurs. Sous la condition qu'ils présentent un dossier au sein de la coopérative, qui instruit, où nous on a un rôle d'accompagnement et de vérifier, parce que finalement à la fin, c'est quand même la coopérative qui contractualise avec tout ça, et que si au bout du compte l'entrepreneur ne peut pas rembourser, c'est la coopérative qui est aussi derrière. Donc nous on a vocation à vérifier que. Puis, le jeu, ce n'est pas de créer de l'endettement pour créer de l'endettement, il faut vraiment qu'il y ait une possibilité de retour. Donc nous, on va vérifier ça. On présente un dossier qu'on accompagne au cadre Centre Actif. Il y a une commission qui se réunit, une commission ad hoc. On fait en sorte que dans l'instruction au sein de la coopérative, le dossier arrive dans de bonnes conditions. Et jusqu'à maintenant, c'était le cas. Voilà. Et, alors, je crois qu'il y a une soutenance quand même par l'entrepreneur qui vient présenter son dossier.
Il présente un chargé de mission.
Voilà. Et puis, il y a octroi du financement. Et puis, après, la possibilité de retourner vers la coopérative avec des sous. Voilà. Donc ça, c'est un outil pour nous qui est super intéressant. Donc là, c'est vraiment une mutualisation avec derrière une garantie qui est apportée. Alors du coup, c'est nous qui apportons la garantie, ouais, plutôt. Voilà, si tu veux. Ouais. Enfin, tu peux y aller. Parce que...
voilà. Non, mais voilà, l'idée, c'était que quand Emmanuel était venu nous voir et qu'ils avaient dit, bah, voilà, on aimerait sur nos réserves prêter de l'argent potentiellement à nos entrepreneurs, on aurait une certaine somme à mettre. Et au lieu de le faire eux-mêmes, on a d'autres fédérations qui ont ça. On s'est dit, mais comme nous, on est des financeurs et que notre métier, c'est de faire du financement, pourquoi pas s'appuyer sur nous? On a monté un outil où, en fait, leur 10 000 €, enfin 7 000 plus notre coopérative à 3 000, vient garantir ce fonds que nous, on a été chercher, donc les 50 000 €. Donc, c'est en fait une garantie du fonds. Donc, on prête sur les 50 000. Puis, s'il y a une perte, on va prendre dans ce petite garantie qu'eux ont mis de côté. Enfin, nous ont affecté au fonds de garantie. Et donc, si ça se passe bien, on ne vient pas prendre. Donc, au lieu de 10 000 euros qu'ils auraient pu prêter directement à moyenne à 2-3 000 euros à les entrepreneurs salariés, ben, on laisse 50 000. Bon, là, l'effet de levier n'est pas encore énorme, mais c'est déjà ça. Et puis, le deuxième point, c'est ce que tu as dit, même si sur les deux ou trois premiers dossiers, ça s'est bien passé comme ça, c'est aussi d'éviter qu'on soit à la fois jugé parti sur les projets qu'on veut financer. C'est-à-dire que oui, on veut financer des bons projets. En même temps, s'ils passent au comité chez nous ou qu'on dit non, ça vous met pas quand même forcément ça évite ce petit conflit d'intérêts qu'il pourrait y avoir. C'est un bon coopérateur, chez nous il est très investi, il est dans quatre commissions, bah, je peux pas lui dire non parce qu'il est très actif. Bah oui, mais un autre, France Active, a dit que bah, sur ce projet-là, on prenait quand même trop de risques. Et donc ça rebascule le mauvais rôle sur nous si jamais on devait dire non, quoi. Et ça qui peut quand même être intéressant aussi vis-à-vis de la coopérative, puisqu'on a d'autres fédérations où ils prennent leurs propres outils. Puis après, comme c'est à la fois les administrateurs, c'est les mêmes qui décident pour leurs adhérents. Très vite, il y a quand même un conflit d'intérêts qui arrive à un moment dans des projets un peu complexes. Quoi. Donc là, l'idée, c'était effectivement l'effet de levier, puis on externalise la décision à un autre organisme.
Quoi. D'accord, mais ça, c'est
Et ça peut être duplicable. Si jamais on parlait de garantie, c'est vrai qu'on peut la loi permet de se faire des prêts inter-entreprises ou des prêts entre associations, etc. Attention quand même, c'est extrêmement réglementé. Et puis, oui, on s'entend bien, tout va bien. Et puis, quand on, effectivement, quand on peut plus rembourser, quand tout ça, enfin, l'argent dans la mutualisation, ça peut quand même très vite foutre le bordel, c'est mal l'expression. Donc, du coup, passer par des organismes qui sont financeurs, hein, dire ah oui, vous êtes très strict dans le financement de ça, bah, on est strict parce qu'aussi, on regarde des règles pour se faire rembourser. Donc, après ça, on peut voir ensemble. Et d'où l'idée aussi de monter un fonds, parfois en commun.
Parce que le FRES, en fait, ça fonctionne que pour les entrepreneurs salariés.
Voilà.
C'est-à-dire qu'une asso, elle se tourne vers qui si elle doit faire un financement
Bah après, nous, on a des outils qui sont France Active, on a des outils de financement type FRES, mais qui existent pour l'ensemble des acteurs. Donc d'accord. On peut financer d'un prêt participatif de 5 000 euros sur 18 mois à 1,5 million d'euros sur 7 ans. Donc la palette, elle est toute aussi large que ça, donc relativement... Et fait, donc ça, c'est nos outils existants. Mais après, on est là aussi pour si un jour, il faut monter un fonds dans le domaine culturel et qu'il faut un outil spécifique de financement par rapport à ce monde-là qui est plus particulier, ben, on peut aussi réfléchir ensemble. Nous, on est toujours ouvert à co-construire et à inventer des nouveaux outils financiers dans le cadre où on a un agrément bancaire, où on est aussi... voilà, on a des agréments qui vont bien du côté financement, quoi, et qu'on peut essayer de lever des effets de levier, pas toujours, hein, mais quand ça marche, avec d'autres organismes pour financer. Et on a aussi des garanties, ça, on peut se porter caution pour n'importe quelle association auprès de n'importe quelle banque. On a des outils de garantie, il suffit d'être association, d'avoir de l'emploi et d'avoir une activité pour le territoire. Et donc là, on peut garantir les prêts de la banque jusqu'à, pour certaines garanties, 200 000 euros de montant garanti, donc des prêts jusqu'à 400 ou 500 000 euros, mais aussi on commence à 5 000 euros, hein, enfin des petits, ça peut être petit aussi. Et donc d'accord. Pour éviter de se porter caution, on se porte caution. Et ça, c'est des outils de mutualisation aussi.
D'accord, ok. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Est-ce que vous avez faim? Je tiens à remercier tous les participants, les intervenants. On a fini cette première partie de la rencontre. Cet après-midi, on reprend vers 14h avec la Café du Café pour 14h30, dernier délai, on reprend sur la partie la mise en place concrète des actions. Donc on commencera avec Emmanuel Houda en première partie de ça. Voilà, merci, puis à tout à l'heure.
Oui. Oui. Enfin, moi, pour moi,
peut-être
pour moi, mais...
Pour toi,
pour toi. Ouais.
Bah non, mais moi, je
vais regarder
les deux.
Oui, le président, il a bien fait
le patron. Vas-y.
Parce que sinon, c'était local.
C'est vrai, c'est vrai. Demain, à tout, on va
accueillir. Tu me
dis.
Merci.
C'est pas moi qui recommande. Ah si, bah si. Ah oui, c'est moi qui recommande.